Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 18 novembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. On a tous appris en SVT que la sélection naturelle est l'un des mécanismes moteurs de l'évolution des espèces. Soit vous vous adaptez à un nouvel environnement, soit vous disparaissez. Le darwinisme appliqué au monde de la tech, ça donne par exemple AOL ou Yahoo, ultra dominant au tournant des années 2000, aujourd'hui en voie de disparition. Si vous avez écouté l'épisode d'hier, vous savez que le moment de vérité approche pour les géants de la tech. La lanceuse d'alerte Frances Haugen nous l'a dit, jamais il n'y a eu une telle volonté commune de s'attaquer à Big Tech, selon les responsables politiques qu'elle a rencontrés pendant sa tournée mondiale. Démantèlement, régulation, désintérêt des jeunes générations, les menaces sont nombreuses, alors Facebook, Google et les autres sont en train d'organiser leur propre mutation pour survivre. Et pour ce deuxième épisode, j'accueille en studio un duo d'Emmanuel, Emmanuel Botta et Emmanuel Paquette du service économie de l'Express. Salut à tous les deux.
Bonjour. Salut.
Pour préparer cet épisode, nous avons tous les trois fait des recherches sur
Google.
Nous nous sommes parlé via Teams, le service de messagerie professionnelle de
Microsoft.
Et pour faire tout ça, nous avons utilisé nos iPhones et nos Mac, des produits
Apple.
Une partie de notre matériel d'enregistrement a été livrée par Amazon. Et si vous écoutez cet épisode, c'est peut-être parce que vous avez vu une pub pour l'Express sur, au hasard,
Facebook.
Voilà, vous pouvez faire le même exercice chez vous, vous le savez, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft sont omniprésents dans notre quotidien, au point qu'il est difficile, voire impossible d'imaginer notre vie sans eux. Et pourtant, la peur absolue de leurs dirigeants, bah, c'est de disparaître.
Oui, c'est une angoisse intime qu'on retrouve chez Zuckerberg, donc le patron de Facebook, mais chez tous les patrons de ces géants de la tech, tout simplement parce qu'ils ont parfaitement conscience qu'ils sont arrivés très très vite. Le numérique permet en fait d'être un géant très rapidement, mais aussi de disparaître très rapidement. Si je dois prendre une image, dans l'industrie lourde, quand vous construisez des sous-marins, des navires ou des rails, ça va prendre un petit peu de temps avant que vous disparaissiez. Mais finalement, avec un algorithme ou une nouvelle start-up qui arrive avec une idée géniale, vous pouvez être disrupté et devenir, si on va très loin, le prochain Yahoo qui n'a pas vu venir Google et les réseaux sociaux, et surtout le prochain Kodak qui n'a pas cru au numérique et qui a totalement disparu.
Pour ceux qui ne savent pas, Kodak, c'était les appareils photo.
Ça a été, pardon, excusez-moi, oui, je viens de trahir le fait que j'avais plus de 40 ans, excusez-moi. Et donc, ils sont en permanence en train de screener quels sont les nouvelles technologies ou les nouveaux acteurs qu'il faudra racheter pour être à la pointe ou tout simplement pour étouffer dans l'œuf un potentiel concurrent qui viendrait vous faire de l'ombre, voire totalement vous corneriser.
En fait, le spectre d'IBM, c'est celui qui fait peur à tout le monde. IBM s'est fait disrupter par Microsoft. Donc en fait, c'était le leader des ordinateurs, des supercalculateurs, ce qu'on appelait les mainframes à l'époque. Il n'a pas vu arriver le PC personnel et surtout l'arrivée de Microsoft qui, en tant que système d'exploitation, a tout raflé. Et ça, en fait, ça a hanté longtemps la Silicon Valley, c'est-à-dire le syndrome IBM. Et aujourd'hui, ça vient par les descendants de ces big tech de l'époque, ça vient dans la culture de la Silicon Valley, de toutes ces sociétés-là qui ont peur du moment IBM.
Alors, je voudrais juste qu'on remette les choses en perspective. Ces géants d'Internet qui ont peur de la mort, aujourd'hui, ce n'est même pas des géants, c'est des titans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quel point ils sont aujourd'hui puissants?
Amazon, peut-être, en chiffre d'affaires, ça devrait être 450 milliards de dollars à peu près à la fin de l'année, versus 320 milliards en 2020. Ça donne déjà quelques bases. Facebook, l'entité, donc Meta maintenant, via donc Facebook, Instagram et les messageries WhatsApp, Messenger, c'est 2,8 milliards de personnes qui, tous les jours, se connecte à un de ces quatre services.
Donc 2,8 milliards de personnes sur à peu près 8 milliards d'humains sur
c'est
la planète.
C'est ça, tous les jours, qui viennent sur ces services. Ce qui est quand même pas mal en termes de contact. C'est aussi, là, sur le dernier trimestre, Facebook, c'est 9 milliards de bénéfices. Sans parler des réserves d'Apple, qu'on estime à plus de 250 milliards, c'est les derniers chiffres que j'ai en tête, mais ça a dû grossir de plus. Enfin bref, c'est le monde des superlatifs, quoi. C'est toujours plus d'argent. Donc effectivement, ils sont ultra puissants. Ultra riche.
Puis ce qu'on voit surtout, c'est que cette richesse se traduit aussi en valorisation boursière, puisqu'aujourd'hui, ces GAFAM dépassent quasiment tous allègrement la barre symbolique des 1000 milliards de dollars de valorisation, voire s'approchent des 2000 milliards. On n'avait jamais vu ça hein, dans l'histoire de la bourse. Donc on voit aujourd'hui que non seulement c'est des géants qui sont stratosphériques, mais qui ont des taux de croissance qui sont toujours extrêmement élevés, même avec des niveaux de chiffre d'affaires très importants, et puis des niveaux de marge qu'on avait rarement vus dans une industrie, quasiment des niveaux de marge similaires à celles du luxe.
Et malgré tout ce qu'on vient de dire, Apple, Facebook, Google et les autres se sentent quand même menacés d'extinction.
Effectivement, parce qu'il y a de fait des très fortes menaces. Enfin, il y a déjà la menace, alors qui plane légèrement certes, mais du démantèlement, parce que même aux États-Unis, effectivement, il y a pas mal d'hommes politiques qui songent très sérieusement à démanteler ces monstres qui sont devenus omnipotents. Il y a, en termes de menaces, il y a des menaces très concrètes. Il y a Google, là, qui vient, Bruxelles vient de confirmer l'amende de 2,4 milliards d'euros contre Google pour pratiques anticoncurrentielles, notamment son fameux comparateur de prix. Donc là, on est sur du très concret. 2,4 milliards, c'est énorme, même si ça reste relatif quand on est un géant comme Google. Mais si on revient à Facebook, il y a une menace qui est peut-être la plus pernicieuse et certainement la plus dangereuse. C'est celle, effectivement, de la ringardisation, quoi.
Oui, ça, c'est l'un des enseignements frappants des Facebook Files. C'est que l'entreprise de Mark Zuckerberg se sent fragile. Elle est obnubilée par cette perte d'influence chez les jeunes.
Et si Facebook était déjà ringard? Le réseau social séduit de moins en moins les jeunes.
Oui, et c'est un fait, Facebook. C'est de plus en plus le média, en tout cas des vieux, en tout cas des plus de 40 ans. Et il y a, par exemple, un réseau social comme TikTok, qui est bien plus populaire que Facebook. Il y a aussi, évidemment, Snapchat. Le gros souci, effectivement, il y a un chiffre qui est issu des Facebook Files, c'est que aujourd'hui, le taux de pénétration, si je puis dire, en tout cas l'utilisation quotidienne du réseau social Facebook chez les teenagers, donc chez les jeunes, devrait diminuer de 45% d'ici 2023. C'est catastrophique parce que quand vous avez une population vieillissante sur un réseau social, elle ne va faire que vieillir, c'est un peu mécanique, et un jour elle va ne faire que mourir, c'est aussi très mécanique. Donc en gros, effectivement, vous pouvez vous dire 2,8 milliards de consommateurs quotidien, c'est gigantesque, mais ça peut aller très vite. C'est-à-dire qu'en une génération, vous pouvez disparaître. Ce qui explique aussi d'ailleurs qu'ils ont cette espèce d'obsession d'aller chez les plus jeunes et encore même les plus que jeunes chez les enfants. Il y a eu notamment, effectivement, cette tentative, c'est pas la première fois, de faire un Instagram pour enfants.
Effectivement, Instagram for kids, donc pour les 12-13 ans, et qui, pour le coup, après les révélations de la lanceuse d'alerte, a été mis sur pause, le temps de calmer un peu les esprits. Donc, pour l'instant, Facebook a mis un peu le pied sur la pédale douce. Après, il faut savoir, comme le disait Emmanuel, que TikTok, c'est quand même une application chinoise qui appartient à ByteDance, qui, il y a 3 ans de ça, pouvait se dire qu'un jour, Facebook serait bousculé par un groupe chinois sur une application mobile.
Ce qui est certain, effectivement, c'est que Zuckerberg a une grande angoisse et une angoisse justifiée, c'est que tous les réseaux sociaux, aussi puissants soient-ils, ont une date de péremption.
Je vous l'ai dit, pour survivre à un nouvel environnement, les géants de la tech, comme n'importe quelle espèce, n'ont pas le choix. Ils doivent s'adapter. Alors, Facebook et les autres ont décidé de se métamorphoser. Bon, j'ai fait un jeu de mots facile, mais vous en avez très probablement entendu parler. Facebook a changé de nom pour devenir Meta.
To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta.
On va s'arrêter un peu sur Facebook parce que le réseau social est le premier à annoncer un tel pivot stratégique dans son activité.
Oui, effectivement, Facebook, enfin Meta désormais, fait le pari que demain, Internet, ça sera le métaverse ou les métaverses. Mais bon, je vais m'épargner un peu de salive. Est-ce que tu peux ouvrir l'armoire archive, Xavier ?
Je vois, Emmanuel, que tu commences à maîtriser nos outils. Donc oui, je vais ouvrir l'armoire. Il y a quelques semaines, on avait fait ensemble un épisode pour expliquer précisément ce qu'est le métaverse. Alors ben voilà, je ressors la définition.
C'est un univers en 3D totalement virtuel, dans lequel on va accéder de plus en plus par des lunettes de réalité augmentées, donc par exemple les Oculus de nos amis de Facebook.
Donc là, précisément, nous, on est dans l'Oupiverse, mais dans la vraie vie, on a des casques de réalité virtuelle.
Exactement,
sur
ce qui nous permettra de naviguer dans ces univers parallèles et dans lequel on peut à peu près tout faire.
C'est-à-dire ?
Être qui on veut, sous la forme qu'on veut, se balader, jouer, aller à des concerts, à des musées, rencontrer des amis, tout ce qu'on peut faire dans la vraie vie.
Pour tout comprendre, je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode. Il s'appelle « Les maîtres de l'univers virtuel ». Et je vous donne un petit conseil, il est immersif, alors écoutez-le au casque. Emmanuel, tu expliquais déjà dans cet épisode que Mark Zuckerberg voulait à terme que Facebook ne soit plus considéré comme un réseau social, mais comme, je cite, « une entreprise de métaverse ». Ce changement de nom, ce n'est pas juste donc une annonce cosmétique pour détourner l'attention des scandales dont on a parlé dans l'épisode d'hier avec Frances Haugen.
Non, ça va évidemment bien au-delà du simple ripollinage qui serait censé faire oublier que Facebook a un certain nombre de casseroles derrière lui. Quelques chiffres peut-être, 10 000 employés, donc quasiment 20% des salariés de Facebook qui travaillent déjà depuis plusieurs années manifestement sur ces projets de métaverse. L'annonce du recrutement de 10 000 ingénieurs uniquement en Europe dans les 5 prochaines années qui vont travailler sur les métaverses et une enveloppe qu'on estime à 10 milliards, certains disent 20, annuellement qui sera dédiée uniquement à la création de cet univers virtuel.
Devenir un métaverse, c'est le moyen choisi par Facebook pour redevenir attractif auprès des plus jeunes et donc, encore une fois, pour assurer sa survie.
L'idée, c'est vraiment d'aller chercher les jeunes et d'essayer de rajeunir son image, mais c'est aussi d'aller sur un nouveau terrain et donc de diversifier ses activités et accessoirement un nouveau terrain qui aujourd'hui n'a quasiment pas de règles parce que c'est une espèce de Far West numérique.
Oui, effectivement. D'ailleurs, Facebook l'a bien dit, ils disent on se donne 10 ans pour le créer. Et d'ailleurs, on veut embarquer avec nous les gouvernements et les régulateurs de tous les pays pour co-construire cet univers virtuel. En gros, on dit participer avec nous à la création de ce métaverse. Comme ça, vous ne pourrez pas nous reprocher ce que vous nous avez déjà conseillé de faire aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt malin et c'est plutôt bien vu. Et par ailleurs, effectivement, ça peut attirer des ingénieurs qui, aujourd'hui, pourraient se dire, vu la réputation sulfureuse de Facebook, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller les rejoindre? C'est plutôt un bon coup de la part de Facebook. Sachant qu'effectivement, il y a une grande guerre des talents dans la Silicon Valley avec des turnovers, donc des gens qui quittent régulièrement les entreprises pour aller chez les mieux disants.
Une mutation salvatrice à bien des égards, donc, et que Facebook, enfin, donc Meta, prépare depuis un moment.
Oui, si on se penche un petit peu sur les différents projets qui ont été mis en place par Facebook sur ces dernières années, on voit par exemple une des briques les plus importantes, parce que qui dit nouveau monde, aussi virtuel soit-il, dit forcément argent et financiarisation. Il y a eu le lancement en 2019 de Facebook Pay, qui est une espèce d'intermédiaire en gros entre un vendeur et un acheteur, un intermédiaire de confiance qui est quand même dans 160 pays, qui traite 55 devises et qui a traité sur les 12 derniers mois 100 milliards de valeurs. Donc je veux dire, c'est déjà très très bien installé. Il y a eu plus récemment, donc c'était en octobre dernier, le lancement à l'état de test aux États-Unis et au Guatemala de Novi, donc qui sera un portefeuille numérique, mais qui à terme sera utilisable à la fois dans le monde réel, c'est-à-dire pour payer mon café, peut-être éventuellement mon loyer, mais aussi pour acheter des objets virtuels dans ces métaverses. Demain, il y aura peut-être aussi le Diem, donc anciennement Libra, qui est la fameuse crypto-monnaie numérique que Facebook essaie de lancer depuis plusieurs années. Et à terme, on peut même imaginer qu'en plus, on vous permette d'acheter des choses à crédit, mais un crédit Facebook. C'est ce que Facebook est en train, donc Meta, est en train de tester en Inde, des microcrédits.
Tu parles de plusieurs briques pour construire le nouveau Facebook. Quelles sont les autres briques?
La plus grande brique, j'allais dire, qui rassemble toutes les autres briques, c'est qu'en fait, Facebook est en train de se créer un nouveau business model. Aujourd'hui, Facebook, c'est 98% de la pub. C'est-à-dire la vente de nos profils via les données qu'on laisse. L'idée, ça serait aussi de se dire, j'ai un métaverse, demain, je peux construire un centre commercial virtuel et dans ce centre commercial virtuel, je vais louer des espaces, des boutiques virtuelles à des marques bien réelles. Il y a Sotheby's, par exemple, qui est dans un autre métaverse qui existe déjà, qui s'appelle Decentraland. Il y a Nike, qui a déposé son logo et le slogan « Just Do It » pour pouvoir l'exploiter dans ces univers virtuels. Donc, on voit bien, effectivement, qu'il y a cette possibilité. Il y a aussi la possibilité, demain, avec Horizon Workrooms, de faire des formations, des salons professionnels, le tout de manière en non-présentiel. L'idée, c'est aussi de se créer des nouvelles sources de revenus.
Parmi les évolutions anticipées par Facebook pour se renouveler, les petites briques, il y a aussi la nécessité de s'imposer sur le marché des casques de réalité virtuelle.
Oui, c'est vrai qu'on en parle un peu moins, mais en fait, Facebook a déjà son propre casque qui s'appelle l'Oculus 2, en l'occurrence, et qui devrait atteindre les 10 millions d'exemplaires vendus à la fin de l'année. Il y a aussi, effectivement, les Ray-Ban Stories qui, à terme, seront des lunettes connectées qui permettront peut-être d'arriver dans les métaverses, mais via la réalité augmentée. Donc, c'est un peu ce qu'on peut voir avec Pokémon Go, par exemple. C'est vous voyez la réalité, mais vous voyez se juxtaposer des personnages ou des objets totalement virtuels. Et tout ça, c'est des sources de revenus supplémentaires. Mais le plus important, et je pense qu'il n'a pas encore été bien identifié, qui est pour moi éminemment stratégique, c'est que si ça marche, si l'Oculus, si les Ray-Ban Stories finissent effectivement par se démocratiser, mais Facebook deviendrait à la fois Google, parce que la porte d'entrée d'Internet serait vos lunettes, mais aussi Apple et tous les autres créateurs de smartphones, parce qu'on passerait ces appels directement via ses lunettes. Donc ça serait une révolution, et ça ferait aussi, par contre, ça c'est le côté un peu plus angoissant de Facebook, un monstre totalement omnipotent qui pourrait faire à peu près ce qu'il veut au moment où les régulateurs, eux, aimeraient plutôt diviser sa puissance.
Donc Facebook deviendrait à la fois Apple et Google. C'est une manière d'organiser sa survie en menaçant celle des autres géants du numérique. On imagine qu'eux, ils ne comptent pas se laisser faire.
Non, évidemment, Apple d'ailleurs s'apprête lui-même à sortir son propre casque de réalité virtuelle qui devrait arriver dans 1 à 2 ans, qui sera un casque d'ailleurs beaucoup plus puissant et beaucoup plus cher. Microsoft a aussi, enfin, travaille sur un casque médical qui serait plus professionnel et qui pourrait aussi équiper effectivement les armées notamment. Donc chacun travaille là-dessus. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je trouve on arrive à un moment en fait où ces géants, là, ces GAFAM sont devenus tellement puissants, tellement omnipotents qu'ils n'ont plus d'autre choix que de se manger entre eux.
Et pour faire ça, est-ce que les autres, comme Facebook, ont aussi prévu de se transformer radicalement ?
Oui, effectivement. Alors là, aujourd'hui, la course à très court terme, c'est les services de vidéo à la demande. Hein. On le voit avec tout le monde court après Netflix. Hein. Il y a Apple, effectivement, qui, eux, investissent aussi massivement dans la création originale pour distribuer de tels contenus. On voit aussi Facebook qui achète des droits sportifs pour retransmettre en direct certains contenus, certains matchs. Amazon fait la même chose en France avec Roland-Garros ou la Ligue 1. Donc, on voit aujourd'hui qu'ils essayent de capter des éléments qui, jusqu'à maintenant, étaient juste transmissibles via les chaînes de télévision traditionnelles dites linéaires. Et ils essaient de délinéariser ça, justement, pour augmenter le fait que les gens restent le plus longtemps possible connectés à leurs services. Donc ça, c'est un élément à très court terme sur lequel ils se diversifient.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se diversifient aussi parfois vers des secteurs qui sont très, très lointains pour eux. Enfin, on pense à la voiture autonome. Donc, on sait qu'il y a Google, enfin, en tout cas, l'entité Waymo qui appartient à Google, qui travaille activement dessus. Apple, manifestement, travaillerait aussi dessus. Il y a la santé. Amazon, et notamment aux États-Unis, est très, très en pointe là-dessus. C'est un secteur qui l'intéresse énormément. Il y a le spatial, si on veut aller encore plus loin, effectivement, avec Blue Origin qui... Certes, il est une entité un petit peu à côté d'Amazon, mais en tout cas, qui a le même patron, Jeff Bezos. Donc, on sent bien, effectivement, qu'ils sont en permanence en train d'essayer de manger de nouveaux acteurs, de nouveaux marchés, de se diversifier, quoi. Ils ont une espèce d'obligation de grandir.
L'espace, le métavers, ce sont les nouvelles frontières des GAFAM. Mais pour assurer leur survie, il leur reste aussi un réservoir immense de clients, ici même, sur la Terre.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour durer dans le temps, les GAFAM se sont donné une autre mission, finir de connecter la planète.
Oui, parce qu'effectivement, en Europe, on ne s'en rend pas bien compte parce qu'on a l'impression que Internet est devenu quasiment un bien public. Mais il y a plus de 2 milliards d'êtres humains aujourd'hui sur la planète qui n'ont pas accès à Internet, notamment évidemment les pays émergents. Et ça, pour les GAFAM, c'est juste insupportable parce que 2 milliards de personnes qui ne sont pas sur Internet, c'est 2 milliards de clients potentiels en moins. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Sur ces dernières années, ils ont investi plus de 10 milliards dans les câbles sous-marins, des câbles sous-marins qui sont censés connecter ces pays émergents.
Les géants du net se battent donc pour dérouler des câbles, mais pas seulement. Ils essayent tous les moyens possibles, ou presque, pour apporter de l'Internet partout dans le monde.
Oui, ils ne cessent de multiplier, effectivement, de tester des projets plus ou moins délirants. Il y a eu des armées de drones ou des ballons gonflables géants qui permettent d'apporter l'Internet dans les territoires les plus reclus. Mais il n'y a pas que l'aspect technique. Il y a eu aussi, effectivement, des projets commerciaux qui ont échoué. Enfin, moi, je pense en tout cas à celui de Facebook en Inde qui avait proposé de vous donner ou en tout cas de vous payer toute une partie de votre forfait à condition que la porte d'entrée soit Facebook. Ça a été au final interdit par le régulateur indien, mais ils cherchent en permanence effectivement à capter de nouveaux clients.
Et puis, il y a aussi un nouveau mode de connexion Internet, les constellations de satellites. On avait fait un épisode entièrement sur le sujet cet été. Oui, je suis à nouveau en train d'ouvrir l'armoire à archives de la Loupe. Voici les explications de Bruno Cotte, chef du service science de l'Express.
On est à très faible altitude, 500 km d'altitude. Mm-hmm. Les satellites, là, se déplacent très, très vite. Le gros avantage, c'est que plus on est proche de la surface de la Terre, le signal a moins de distance à parcourir. On parle d'effet de latence en général. Mmh. Et moins il y a de distance à parcourir, plus l'information va vite. Donc il y a plus de fluidité et donc on peut imaginer et développer des services, des applications beaucoup plus nombreuses pour la suite. Il y a un petit problème, il en faut un certain nombre pour avoir une couverture, avoir un réseau, un vrai maillage. Ce maillage demande énormément de satellites, d'où l'idée qui se développe depuis une grosse décennie de mettre en place ce qu'on appelle des constellations, donc des réseaux de milliers de satellites, de tout petits satellites.
Ça, c'est ce que veut faire par exemple Amazon avec son projet Kuiper. C'est une constellation qui à terme comptera plus de 3000 de ces tout petits satellites. Les deux premiers doivent être lancés début 2022. On le voit, les GAFAM nous préparent donc un nouvel Internet, mais en reproduisant le même schéma, ils sont en concurrence pour capter notre attention, nous garder dans leur univers. En gros, il faut que tout change pour que rien ne change.
Non, Xavier, c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, il y a aussi une position alternative. D'autres rêvent d'un autre monde possible, celui d'un Internet ouvert, interopérable. L'idée, c'est, par exemple, aujourd'hui, vous devez vous connecter à Facebook pour pouvoir communiquer avec vos amis sur Facebook. Pareil pour Twitter, pareil pour YouTube. L'idée, c'est d'un jour d'avoir une interopérabilité entre ces plateformes. Le fait que, quand on poste une vidéo sur YouTube, elle se retrouve automatiquement sur Twitter et sur TikTok, par exemple. Donc, on n'est pas à recréer des comptes et à rester dans un univers fermé à chaque fois. Alors, c'est pas qu'une vision de l'esprit. Twitter travaille dessus depuis déjà plusieurs années. Mais encore faut-il qu'il y ait une volonté commune des acteurs de se mettre autour de cet Internet ouvert. Et puis, il y a aussi des nouveaux pairs de l'Internet qui disent il faut tout reprendre à plat, faire de nouveaux standards, redévelopper un Internet ouvert et libre, parce que on risque à un moment donné de se retrouver quand même dans un univers oligopolistique dans lequel il y aura 4 ou 5 grands opérateurs sur lesquels on passera de l'un à l'autre et on sera toujours enfermé dans ces 4 ou 5-là. Il faut retourner à l'Internet du début et refonder l'Internet pour voir évoluer, voir et apparaître de nouveaux acteurs et pas tomber dans cet oligopole que nous prévoit l'avenir.
L'Internet de demain, vous viendrez nous en reparler forcément dans la loupe. Merci beaucoup Emmanuel Botta et Emmanuel Paquette.
Merci.
Merci.
On peut lire tous vos articles sur l'avenir du numérique et les géants de la tech sur le site de L'Express. On a cité beaucoup d'épisodes de La Loupe dans ce podcast, alors je vous invite à aller les écouter si vous voulez en apprendre davantage sur les constellations de satellites, le métaverse ou les algorithmes. Pour être sûr de ne pas rater les suivants, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Apple Podcast, Castbox ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.
This is the summer to expand your horizons. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate travel shoes from Allbirds. Like the breathable, silky smooth tree dasher, the responsive foam and extra grip of the tree runner, or the classic low-top look of the tree piper. Allbirds has a lightweight, ultra-packable shoe ready for whatever adventures you have planned. Boarding pass? Check. Passport? Check. The perfect travel shoe? Check. Find your perfect pair at Allbirds.com. That's Allbirds.com.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.